Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner durant cette année d'excellence. Bonne année.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Des chiffres, des tendances et des réponses qui varient en fonction des différentes régions du monde et des semaines qui passent. Nous consacrons une nouvelle émission à la pandémie de Covid-19 avec en toile de fond deux questions. L'actuelle déferlante du variant Omicron peut-elle changer cette pandémie en épidémie? L'espoir d'atteindre l'immunité collective est-elle fondée? Au moment où nous parlons, le pic des infections est dépassé en région parisienne. Pour les autres régions françaises, le niveau record de contamination devrait être atteint dans la semaine qui vient. Mais la tension reste encore très importante dans les services hospitaliers. Et toujours en France, le Parlement a adopté le pass vaccinal. L'Organisation mondiale de la santé, appuyée par des ONG, continue de plaider sans grand succès pour un accès toujours plus élargi au vaccin. L'OMS qui constate par ailleurs que la quatrième vague en cours est en train de se stabiliser sur le continent africain. L'Afrique, où globalement 10% de la population a reçu deux doses de vaccin, alors que certains pays riches optent déjà pour une quatrième dose. C'est le cas pour Israël ou le Danemark. Infection, prise en charge, recherche, perception de la riposte au sein des populations. Deux années de pandémie et toujours énormément de questions sans réponse. Des questions, des explications alors qu'une flambée chasse l'autre et que la prudence est toujours essentielle face à un virus qui a très souvent déjoué les prévisions, y compris de certains scientifiques de premier plan. Des questions que nous allons vous poser. Professeur Christophe Rapp, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue à l'hôpital américain de Paris, président de la Société française de médecine des voyages, membre du Haut Conseil de santé publique. La cinquième vague peut être la dernière, comme l'a sous-entendu il y a une douzaine de jours le ministre de la Santé français, Olivier Véran. On posera la question à Jean-François Saluzzo, virologue et auteur de la saga des vaccins contre les virus publiés chez Belin. Quelle riposte en Israël? Quelles mesures dans ce pays qui a vacciné le plus tôt et le plus massivement sa population? On va poser la question au professeur Cyril Cohen, immunologue à l'université de Bar-Ilan dans le district de Tel Aviv, membre du conseil consultatif sur les essais cliniques des vaccins contre le Covid-19. Quelle riposte cette fois au Maroc alors que les frontières du royaume restent fermées jusqu'au 31 janvier? On rejoindra à Casablanca le professeur Kamal Maroum El Filali, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Ibn Rushd et membre du comité Covid-19 à Casablanca.
Priorité santé sur RFI.
Avec ces premières questions qu'on va vous poser, professeur Rapp, vous, professeur qu'on a reçu régulièrement dans Priorité santé, y compris avant même cette date du 11 mars 2020, date à laquelle l'OMS avait employé officiellement le terme de pandémie pour parler de la propagation du nouveau coronavirus. Donc on est presque à 2 ans depuis cette déclaration. Cinquième vague de contamination en France. L'OMS parle d'une quatrième vague pour l'Afrique. Ça mérite une explication. Pourquoi faire cette différence?
Alors il y a un distinguo en fonction des pays parce que l'épidémie n'est pas synchrone. Et effectivement, en Afrique, on est encore sur le variant Delta qui a émergé bien plus tôt que le variant Omicron. Omicron est né en Afrique du Sud, mais finalement, sa diffusion sur le territoire africain est encore en cours et sans qu'il y ait constatation d'une véritable augmentation de l'incidence des cas. Probablement faute d'une surveillance épidémiologique extrêmement pointue et notamment un défaut de séquençage. Donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est que autant la situation en Europe est sûre maintenant, la fin de Delta et peut-être une vague très rapide et courte d'Omicron, autant en Afrique, il y a encore des incertitudes sur la possibilité de rebond et d'une nouvelle vague liée à Omicron. Pour l'instant, on ne sait pas.
Alors, on va commencer par le terrain, c'est toujours ce qui nous intéresse pour débuter, professeur Hop, la situation à laquelle vous êtes confronté dans votre exercice d'infectiologue. Est-ce que la majorité des personnes testées positives aujourd'hui en France sont porteuses de ce fameux dernier virus Omicron?
Oui, aujourd'hui, il y a 95% des séquençages qui correspondent aux variants Omicron. Mmh. On est très clairement sur la fin du Delta et sur une très, très large prédominance du variant Omicron.
Nuance dans les services de réanimation. On est face à quel type de patient, même si bien sûr on n'aime pas classer les gens en fonction ni des maladies, ni des variants encore moins. On est plutôt face à des personnes qui ont eu des complications liées à Delta ou des complications liées à Omicron.
On est très majoritairement sur des patients infectés par le variant Delta et sur des patients non vaccinés ou vaccinés de doses ou des patients vaccinés non répondeurs fragiles qui étaient bien sûr à risque.
Alors Omicron, pour bien comprendre, c'est très contagieux, mais d'une sévérité moindre par rapport à d'autres formes antérieures du Covid-19, d'autres mutations. On parle d'atteinte, on va dire davantage rhinopharyngée, gros rhume, plus haute, moins pulmonaire. Ça veut dire que les risques, c'est moins dangereux?
En fait, les premières données nous montrent qu'il y a trois fois moins d'hospitalisations pour le variant Omicron. Et effectivement, il y a des données animales sur des modèles animaux. Le virus se réplique beaucoup plus au niveau des voies aériennes supérieures. Et donc, il n'atteint pas les alvéoles pulmonaires, contrairement au variant Delta ou aux précédentes souches virales. De fait, il y a beaucoup moins de pneumonie, qui est une définition radiologique avec des images pathologiques au scanner. Et de fait, il n'y a pas de détresse respiratoire. Donc, ça ressemble beaucoup plus à une rhinopharyngite ou à une grippe classique.
Mais il y a l'aspect quantitatif, comme il y a beaucoup plus de personnes contaminées. Quand on a fait des maths très simples, même moi qui ne suis pas très douée en maths, je comprends ça. Ça veut dire que ceux qui ne veulent pas comprendre ne veulent vraiment pas comprendre. Ça veut dire que, attention, ce n'est pas parce qu'on a Omicron qu'on n'a pas un risque, surtout, on va dire, si on n'est pas vacciné, de terminer intubé, de terminer en réanimation.
Oui, bien sûr, la vaccination est très protectrice et ça ressort de toutes les études. Et ensuite, mécaniquement, vu le volume de contamination, plus de 300 000 par jour, on a forcément des gens qui sont hospitalisés. Et on le voit, il y a un décalage entre la courbe de réanimation qui est à peu près étale, voire en baisse, et la courbe des hospitalisations classiques en médecine ou maladies infectieuses qui continue de croître. Et il va y avoir un décalage en France d'encore 15 jours où les hôpitaux vont augmenter la tension dans les services dits de médecine parce qu'une proportion non négligeable de sujets ayant le variant Omicron vont être hospitalisés.
Indicateur essentiel quand on suit cette épidémie, c'est le R. On s'est un petit peu familiarisé avec des termes ou des sigles avant qui étaient réservés purement aux médecins. Le R qui renseigne sur la circulation, l'effet contaminant du virus. On en est où de cet indicateur aujourd'hui en France, professeur?
Alors ce R0 qu'on appelle le taux de reproduction, qui est effectivement le nombre de cas que quelqu'un va contaminer quand il est malade, il est en France aux alentours de 1,3, il est en baisse. Mais sinon, sur le plan théorique, il faut retenir que Omicron, le R0 de Omicron qui est très transmissible, vous pouvez monter jusqu'à 10. Donc un virus très contagieux, c'est-à-dire 4-5 fois plus que la grippe, moins que la rougeole, mais 4-5 fois plus que la grippe.
Alors le pic des infections serait derrière nous dans la région Île-de-France. Du côté de la tension hospitalière, vous le soulignez, on est toujours très 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 haut. Et pour l'instant, il n'y a pas de décrue observée. Professeur Christophe Rapp, l'autre actualité dans le pays, là sur le plan de la riposte, non pas médicale, mais administrative, légale et dans une certaine mesure politique. C'est le vote par le Parlement du pass vaccinal qui succède au pass sanitaire. D'ailleurs, pour le grand public, ce n'est pas forcément évident de faire la différence. On continue d'entendre au nombre des arguments des personnes sceptiques à la vaccination. Pourquoi se vacciner puisqu'on attrape quand même le virus? C'est la question que pose David qui vit en RDC dans une question Facebook. Qui demande donc, David, pourquoi malgré la vaccination et les doses de rappel, on n'atteint pas une immunité efficace et définitive pour juguler les variants du coronavirus?
Alors ceci est exact, mais l'objectif premier de la vaccination, c'est limiter les hospitalisations, les formes graves et les décès. Cet objectif, il est atteint, mais il justifie un rappel de vaccination. Il faut une primo-vaccination à 2 doses et un rappel pour se protéger des formes graves. Donc ça, c'est évident. Et deuxièmement, plus on monte le niveau de couverture vaccinale, plus les gens sont protégés, moins le virus va circuler. C'est cette notion complexe d'immunité collective. Donc il y a un bénéfice. On ne peut pas laisser circuler le virus, même Omicron, parce qu'il y a des conséquences en termes de morbidité. Et puis il y a des conséquences socio-économiques, sociétales. On l'a vu en France, c'est une vague de désorganisation un peu plus qu'une
avec
vague mortifère. Mais c'est aussi un effet attendu des pandémies et il faut le prévenir.
Alors, question de la vaccination, qui reste pour certains encore très, très polémique. On en parle régulièrement dans les journaux. Il y a des manifestations, notamment en France, dans d'autres pays d'Europe. Professeur Christophe Rapp, un auditeur, c'est bienvenu sur la page de Facebook de l'émission. Il défend un point de vue qui n'est pas forcément partagé par tous. Bienvenue écrit, on doit obliger tout le monde en âge de recevoir le vaccin à se faire vacciner. Est-ce que cette obligation vaccinale, c'est un sujet dont on parle entre infectiologues ou pas vraiment ?
Oui, alors ça fait. On en parle entre infectiologues, mais en fait, il y a un problème de principe de réalité. C'est-à-dire que le pass sanitaire, ça a été un outil, un levier pour la vaccination. Maintenant, ce pass vaccinal, qu'on pourrait appeler plutôt pass immunitaire, hein, parce que vous l'avez aussi avec un test PCR positif, hein, ça serait plutôt le bon terme, est un levier qui continue à imposer la vaccination aux gens qui ont envie de se déplacer régulièrement et puis de protéger les autres. Donc, l'obligation vaccinale, c'est quelque chose de très théorique, c'est un vieux débat, ça n'est pas applicable. Voilà, c'est juste un principe de réalité qui fait que les infectiologues les plus cohérents vont vous dire non, on ne saura pas contrôler cette obligation vaccinale, on ne va pas arrêter les gens.
On ne va pas aller les chercher chez eux.
De chez eux en allant acheter la baguette. Donc, c'est aussi simple que ça, c'est plus un principe de réalité.
Alors, quatrième, cinquième vague, et après, bien évidemment, on fait preuve de prudence, comme toujours dans cette émission. On a entendu, avec Omicron, on pourrait passer du stade de pandémie à l'épidémie, voire même vers l'endémie. Et tout ça, ça mérite des petites définitions de rappel. Je me souviens qu'au début, justement, quand l'OMS, il y a 2 ans, était passé de l'épidémie à la pandémie, on avait défini. On y revient, ce dont on rêve tous, hein, il ne faut pas se leurrer, c'est l'endémie. C'est quoi l'endémie par rapport, on est à l'autre bout là, à la pandémie?
Alors, l'endémicité, c'est la circulation d'un agent infectieux de façon permanente sur un territoire. Hein. L'épidémie, c'est l'augmentation de l'incidence, l'apparition d'une nouvelle maladie dans un lieu donné et un temps donné. Ça peut confiner à la pandémie, qui est une épidémie au sens géographique qui va diffuser sur les 5 continents. Donc là, l'idée, c'est que le virus pourrait devenir finalement un virus saisonnier, comme la grippe, et rejoindre les autres virus du rhume. Les coronavirus sont des virus du rhume assez, assez bénins.
Pour bien comprendre, endémie, la grippe, épidémie Ebola dans ce qu'on a vu dans les précédentes flambées, et puis pandémie coronavirus.
Voilà, par exemple.
Donc là, on est fixé. Se projeter, Omicron, vaccination. On donne la parole maintenant à Jean-François Saluzzo. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes virologue. Alors, on a parlé de ce variant plus transmissible, moins agressif. L'envoyé spécial de l'OMS sur le Covid vient de déclarer « On peut penser que c'est la lumière au bout du tunnel ». Et Jean-François Saluzzo, quand vous avez entendu le ministre de la Santé, Olivier Véran, dire avant lui « Cette cinquième vague sera peut-être la dernière », comment est-ce que vous avez réagi ?
Bah écoutez, il faut distinguer les déclarations des hommes politiques qui ont des finalités qui ne sont pas toujours à caractère scientifique. Sur le plan de vue scientifique, qu'est-ce qu'on connaît ? On sait plusieurs éléments qui sont bien établis. C'est que l'immunité induite par la vaccination ou l'immunité induite par l'infection naturelle n'empêche pas le virus de circuler, le virus Omicron de circuler. D'autre part, ce qu'on sait, ça c'est certain, c'est que Omicron circule de façon explosive et donc logiquement, on peut s'attendre, après une explosion de grande ampleur, à une très forte diminution et une rapide diminution. La question qui se pose, c'est de savoir que va-t-il se passer à la fin de cette circulation intense. Effectivement, la couverture immunitaire est importante. Elle n'empêche pas la circulation du virus, mais le virus va quand même buter sur cette protection partielle. Et il devrait peut-être devenir, comme ça a été dit précédemment, endémique, c'est-à-dire, on peut utiliser un terme plus simple, circuler à bas bruit et peut-être s'adapter à des facteurs saisonniers. Ça, c'est la logique qu'on peut attendre et qui correspond à peu près avec ce qui se passe pour toutes les épidémies. Car n'importe quelle grande épidémie s'éteint progressivement. Regardez les virus d'Ebola en Afrique. Il y a eu plusieurs épidémies et toutes se sont arrêtées toutes seules. Ce n'est pas l'intervention de la médecine qui arrête les épidémies. Évidemment, l'intervention de la médecine participe, mais n'arrête pas l'épidémie. Donc, on peut s'attendre à une situation d'endémicité. Maintenant, il faut être très prudent car ce virus, il peut y avoir des surprises. Ce virus circule intensément chez les populations vaccinées. Il peut muter et échapper définitivement à l'immunité induite par la vaccination. C'est-à-dire qu'on verrait apparaître ce qu'on appelle des sérotypes différents, comme il y a, on pourrait parler de Covid-1, Covid-2, Covid-3, etc. Bon, c'est peu probable parce que logiquement, ça serait déjà produit, mais c'est une hypothèse. Enfin, il ne faut pas oublier qu'un nouveau variant peut arriver Alors, les variants, effectivement, proviennent de pays où la vaccination est très faible. Dans ce cas-là, ça sera un variant de même type, c'est-à-dire que ce n'est pas l'immunité qui poserait un problème, mais c'est l'adaptation facile à la transmission, encore plus facile que ne l'est Omicron, qui pourrait continuer à circuler. Donc, en conclusion, je dirais que la logique, effectivement, c'est que l'épidémie s'épuise progressivement et qu'on passe à un stade endémique. Mais il faut être très prudent, bien surveiller ce qui se passe, car les surprises avec ce virus peuvent exister.
Est-ce qu'on peut dire qu'Omicron, c'est presque porteur d'espoir, alors qu'au début, on a quasiment senti une vague de panique ?
Alors, les deux sont utilisés parce qu'effectivement, au départ, on a eu très, très peur. Maintenant, effectivement, puisque ce virus est moins induit une maladie moins sévère, ce qui est un peu logique, puisqu'il circule beaucoup chez les personnes vaccinées. Donc, on pourrait presque dire qu'on a un virus qui induit une immunité, qui participe au rôle d'un vaccin vivant atténué. Ce n'est pas exactement le cas, puisque quand même, chez les personnes fragiles et non vaccinées, il peut poser des gros problèmes. Alors, effectivement, c'est une sorte d'espoir, mais cet espoir peut être également déçu, d'abord parce qu'il faut attendre que le variant antérieur disparaisse, ce qui n'est pas encore le cas. Et puis, d'autre part, rien ne prouve qu'un autre variant ne peut arriver après ce passage intensif. Beaucoup de gens pensaient que peut-être l'arrivée de ce Omicron dans une population vaccinée et une population ayant été en contact avec le variant indien, ce variant Omicron aurait eu du mal à pénétrer cette population.
Ça a été démenti.
Ouais, ça s'est totalement démenti. Donc, restons prudents parce qu'un autre variant peut très bien arriver.
Alors, tout à l'heure, vous disiez qu'il va falloir être particulièrement vigilant quand Omicron va s'éteindre. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi, justement, il faut fixer l'attention ? Les scientifiques doivent s'arrêter. C'est quoi ? C'est toujours sur, on va dire, la nature des variants à venir, un contrôle accru des différentes formes, des symptômes un petit peu différents ? Accroître, par exemple, la capacité de test, notamment dans les pays du Sud, pour justement voir si on a une nouvelle émergence.
Bon, alors ça, c'est un problème très difficile parce que, par exemple, en Afrique, les pays n'ont pas les moyens de faire du séquençage. Il n'y a qu'un seul pays qui peut faire ça, c'est l'Afrique du Sud. Et je pense qu'en Afrique, les moyens de recherche sont mis sur d'autres sujets que le séquençage d'Omicron. Donc, il est très difficile de détecter. Alors là, par contre, effectivement, aider les pays pour surveiller la circulation serait une bonne solution. Vous savez, il y a très, très peu de laboratoires, de centres de recherche performants qui travaillent en Afrique. Pratiquement, la recherche qu'il y avait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale a disparu. Les Anglais sont partis, les Américains aussi. Il reste le réseau des instituts Pasteur. Donc là, oui, il y aurait un besoin d'augmenter la surveillance parce que si un nouveau variant apparaît, non pas, bien sûr, il a de grandes chances de diffuser rapidement en Afrique du Sud et d'être détecté. Enfin, s'il apparaît, par exemple, au Burkina Faso ou au Sénégal, etc., il faudra beaucoup de temps pour le détecter. Il ne sera détecté que quand il arrivera dans des pays qui pratiquent du séquençage intensif. Donc, ça serait très important de surveiller l'avenir de ces futurs variants. D'autre part, il faut continuer à penser en termes de vaccins, car la bataille n'est pas terminée, quoi. Et on voit très bien que ces pays du Sud ne bénéficient non seulement pas de vaccins, n'ont pas la possibilité de produire localement du vaccin. Et finalement, ces pays du Sud sont un peu abandonnés eux-mêmes dans le domaine des vaccins, que ce soit pour Omicron ou que ce soit pour d'autres vaccins.
En dépit des déclarations d'intention. Vous remercie beaucoup, hein, Jean-François Saluzzo. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre La saga des vaccins contre le virus publié chez Belin. C'est vrai qu'on se demande toujours, hein, professeur Christophe Rapp, qu'est-ce qu'on peut faire pour être utile ? On est face à l'inconnu, on n'a pas de réponse. Mais il y a des points sur lesquels on peut travailler, comme par exemple l'augmentation de cette capacité de séquençage dans les pays les plus démunis sur ce plan.
Alors ça, c'est vraiment une priorité qui existe depuis la maladie à virus Ebola. On essaye de mettre en place des plateformes de biologie moléculaire en Afrique, dans les grandes capitales, pour surveiller les maladies émergentes.
Ça existe, mais de manière très ponctuelle.
Oui, il y a des programmes en cours, mais c'est des investissements, c'est de la ressource humaine, de gens formés. Mais il y a un enjeu majeur à mieux détecter les émergences. Et donc, l'émergence des nouveaux variants, c'est une priorité pour la planète parce qu'il faut... C'est comme un incendie, il faut être capable de le détecter le plus tôt possible.
Alors, toutes ces questions sur l'immunité, ça nous renvoie bien sûr aux choix opérés dans les différents pays en matière de stratégie de riposte, à l'accès à la vaccination, on va en reparler, et à la situation, on peut le dire depuis le début de la pandémie, qu'on peut décrire comme assez atypique du continent africain. On va reprendre tous ces sujets en deuxième partie de Priorité Santé. On sera toujours en votre compagnie, professeur Christophe Rapp, tout de suite après ce titre de Chaka Ponk, My Name is Stain. Priorité Santé Covid-19, le variant Omicron, état des lieux de la vaccination. Toujours avec nous en studio, le professeur Christophe Rapp, infectiologue à l'hôpital américain à Paris. Professeur Rapp, on va s'arrêter à nouveau sur le continent africain. Est-ce que l'on sait précisément, est-ce qu'on a des données sur le niveau de diffusion du Covid? L'OMS s'est félicité en disant qu'on avait atteint un plateau, que ça redescendait maintenant pour Omicron, donc pas avec une mortalité à la mesure de ce qu'on voit, comme à chaque fois, hein, dans les pays du Nord. Sur quelle base on s'appuie exactement pour évaluer le niveau de contamination, puisqu'on sait que la capacité de test n'est pas importante?
Alors, on a surtout des données pour l'Afrique du Sud, où la vague Omicron, effectivement, est passée, avec des conséquences modestes sur une population jeune et partiellement immunisée, parce que les taux de séroprévalence étaient déjà élevés vis-à-vis des virus précédents. Donc, sur l'Afrique du Sud, on a des bonnes données. Sur les autres pays, notamment sur l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique francophone, on a beaucoup moins de données. Les données les plus récentes, c'est sur la séroprévalence, c'est-à-dire quand on prend des donneurs de sang, quand on prend du sang à des gens de la population générale. Là, on a des surprises parce qu'on a des taux de séroprévalence qui sont parfois jusqu'à 40-50%. Donc, on se rend compte que pendant ces deux années de pandémie, beaucoup d'Africains ont déjà contracté la maladie.
Ils ont eu le Covid sans le savoir.
Voilà. Ça, c'est vraiment une donnée importante. Donc, ce phénomène-là, conjugué à l'âge jeune de la population africaine, fait que pour l'instant, il n'y a pas de conséquences très importantes de ce virus, de ce coronavirus en Afrique. Et ça, on le saurait par la mortalité hospitalière, par la tension en réanimation, qui ne se retrouve pas actuellement en Afrique.
Une question concrète, professeur Rapp, avant de partir pour Israël. C'est Fatouma Ta du Niger, hein, de Niamey précisément, qui nous explique que son mari, qui vit au Maroc, il a reçu une première dose de vaccin. Puis, il a contracté très rapidement le variant Omicron, le virus, bien sûr, du Covid-19 avec le variant Omicron. Pour l'instant, donc, il est traité pour ce virus. Est-ce que pour autant, puisqu'il y a eu en même temps, on va dire, la maladie et le vaccin, est-ce qu'il a la protection du vaccin ou non ?
Alors, il était probablement en train d'incuber la maladie, c'est-à-dire qu'au moment où il est vacciné, il avait déjà le virus dans son corps, mais sans expression clinique. Dans ces cas-là, quand on contracte une maladie dans les 15 premiers jours après un vaccin, c'est pas un échec vaccinal. Mais pour autant, ce sujet devra faire, derrière sa vaccination qui va le protéger quelques mois, deux doses supplémentaires de vaccin contre le coronavirus.
Mais il va falloir
pour
attendre,
booster les anticorps. Il faut attendre 3 mois.
3 mois, c'est le minimum ?
C'est le minimum, oui.
Alors, une première illustration. Donc, on part tout de suite pour Israël.
RFI.
En ligne avec nous, professeur Cyril Cohen, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour professeur Rapp.
Bonjour.
Vous êtes immunologue à l'université Bar-Ilan dans le district de Tel Aviv. Également professeur Cohen, membre du conseil consultatif sur les essais cliniques des vaccins contre le Covid-19. Alors en Israël, c'est un petit peu comme partout dans le monde. Les décisions, la riposte varie au fil des semaines. Professeur Cohen, les frontières de l'État hébreu sont rouvertes depuis une dizaine de jours, c'est ça ? Où en sont les contaminations aujourd'hui dans votre pays ?
Aujourd'hui, les contaminations sont très très hautes. Je crois qu'on ne peut même plus prendre en compte ce nombre. On a dépassé plus ou moins les 30, 40, 50 000 contaminations. Nos estimations parlent une fois de plus de 100 000 par jour pour un pays de 9 millions. Donc si vous voulez avoir l'équivalent par exemple en France, multiplier ça par 7. Ça, ce sont nos estimations, surtout que on a transféré récemment beaucoup de responsabilités en ce qui concerne le dépistage des autorités aux particuliers avec beaucoup d'autotests, etc., vu qu'on a un volume énorme de tests qui avaient été faits. On donne priorité maintenant pour les PCR aux gens qui sont à risque, aux plus de 60 ans, etc., pour leur donner une réponse valable dans les 24 heures et pas attendre 3, 4, 5 jours.
Alors je disais frontières ouvertes depuis une dizaine de jours. Est-ce qu'on sait à quoi ça a servi au juste, la fermeture des frontières ?
Ah ça a été excellent parce que vous savez, lorsque l'Omicron est arrivé dans d'autres pays, en Israël, on a réussi à retarder son arrivée et deux sa propagation. Et donc en fait ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs semaines, on était seulement à 300-400 cas quotidiens, avec des cas très bas. Donc ça vous a permis d'intensifier la dose de rappel, d'obtenir les traitements comme le Paxlovid qui sont en ce moment en Israël utilisés avec un très grand succès, et une fois de plus se préparer et comprendre plus à quoi on devait faire face. Est-ce que ce serait un variant menaçant ou au contraire, comme on le voit, un variant qui est, plus clément?
Alors ce traitement que vous venez de citer rapidement, c'est le traitement qui est développé par le laboratoire Pfizer. Certains pays occidentaux l'autorisent également, c'est le cas des États-Unis, c'est le cas du Canada, des autorisations ponctuelles aussi du côté de la France, puisque bien sûr c'est tout nouveau, c'est vraiment l'innovation. Qu'est-ce qu'on a comme recul et comme résultat sur ce traitement ? J'imagine qu'il est réservé à des cas bien particuliers.
Oui, donc on a un algorithme. Vous savez, en Israël, on est très informatisé. On a un algorithme, justement, des personnes qui sont éligibles, parce qu'on n'a pas énormément de doses. On va recevoir un nouveau lot de médicaments d'ici la fin de la semaine. En fait, nous, on met en priorité les gens qui ont des comorbidités, on calcule un score, une espèce de score pour chaque personne, les gens qui ne sont pas vaccinés, etc. On a déjà traité à peu près 1200 personnes avec ce médicament. Il faut dire aussi qu'il y en a qui le refusent. Un tiers des gens à qui il est offert le refusent. Ça, c'est une autre histoire. Souvent aussi des gens qui ne sont pas vaccinés, qui refusent des traitements. Ce que l'on a aujourd'hui, c'est que ça se passe plus ou moins bien avec, sur ces 1200 cas. On ne peut pas vraiment faire de statistiques, mais aucun n'a été hospitalisé. hospitalisés et aucun décès pour l'instant. Donc, pour ces personnes à risque, vraiment, c'est pour nous ce qu'on appelle en anglais un game changer, quelque chose qui est en train de changer aussi la manière dont on approche la COVID-19.
On va dire que ça évite l'aréa.
Ah ben ça, totalement.
Voilà, donc c'est important de le souligner. C'est important de le souligner. Du côté de la vaccination maintenant, vous avez cité rapidement ces personnes qui sont encore hostiles à la vaccination. En tout cas, c'est très massif hein, dans votre pays. C'est le pays qui a lancé le plus tôt la vaccination, décembre 2020. Mmh. On en est où aujourd'hui? On parle de quatrième dose, mais là encore, ce n'est pas pour tout le monde.
Non, la quatrième dose n'est pas pour tout le monde. Il faut dire que, bon, en Israël, à peu près 80% de la population éligible a déjà reçu sa troisième dose, sa dose de rappel. Donc on est assez bien protégé à ce niveau-là, mieux que d'autres pays. En ce qui concerne la quatrième dose, 500 000 d'Israéliens, ça fait à peu près un tiers des personnes éligibles dans cette tranche d'âge, plus de 60 ans comorbidité, ont reçu la quatrième dose. On ne s'attend pas, on voit que ça ne freine pas trop les contaminations. Les résultats qu'on attend, c'est de voir quel sera l'effet comparé à une troisième dose en ce qui concerne les réanimations. Mais vu qu'on a aussi un variant qui est moins problématique, bien qu'on a encore du Delta et que le Delta représente quand même 30 à 40% des cas de réanimation aujourd'hui en hôpital, bien qu'il représente juste 10% à peu près des contaminations. Donc on espère quand même voir un effet, surtout pour les populations les plus à risque. Mais la généraliser, non, c'est pas du tout, c'est pas une chose à laquelle on pense. Pour beaucoup en Israël, la quatrième dose, je crois, va être l'Omicron.
Oui, parce que tout le monde se contamine les uns après les autres. Alors, tout à l'heure, vous disiez, on est passé du côté des autorités à une réponse plus individualisée. Vous citiez ces autotests. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs vagues de confinement très strictes hein, dans le pays. Comment la population accueille ces décisions et réagit aux différents mouvements des autorités? Est-ce qu'on sent une forte défiance ou finalement, les gens suivent, écoutent et disent, ben, finalement, c'est les bonnes décisions. On doit non pas forcément s'y soumettre, mais faire ce qu'on nous demande de faire.
Oui, non, de manière générale, on n'a pas énormément de défiance. Il y aura toujours des gens qui sont réticents, ça c'est sûr. Je crois que le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est plus la confusion. C'est-à-dire que nos directives ne changent pas toutes les semaines et pratiquement tous les jours. Hein. On a par exemple raccourci l'isolement de la période d'isolement nécessaire de 10 jours à 7 jours et là hier à 5 jours. Donc les gens ne sont pas toujours sûrs, vaccinés, non vaccinés, qu'est-ce qu'il faut faire, un autotest, à quel moment il faut faire cet autotest, de test, etc. Donc ça, c'est plus une question de confusion qu'autre chose, parce qu'on voit aussi la paralysie que l'Omicron crée avec ces infections massives. D'un autre côté, on voit sa dangerosité qui est moindre, donc on se permet de gérer des risques. Hein. On fait en Israël, on anticipe beaucoup et on prend des paris. On se permet justement d'alléger certaines mesures. Donc c'est une fois de plus, je crois que de manière générale, il y a un mécontentement en ce qui concerne l'isolement, le fait que par exemple, beaucoup de parents sont à la maison parce que leurs enfants ne sont pas vaccinés et donc ils doivent être en isolement, etc. D'un autre côté, je dirais que de manière générale, la société israélienne, une société qui est assez habituée à répondre rapidement, donc ces changements ne causent pas, je dirais, de réticence. Juste un peu de confusion.
Ce qui veut dire que ce qui se passe chez vous, ce n'est pas forcément applicable ailleurs.
Ah ben non.
C'est la vie. Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen. Merci beaucoup pour ces explications très claires d'avoir été avec nous en ligne de Tel Aviv. Professeur Christophe Rapp, on l'a entendu. Quatrième dose pour les personnes vulnérables en Israël. Quel est votre regard sur ce choix qui est également celui opéré aujourd'hui par le Danemark?
Alors, donc là, en France, c'est en discussion, hein, c'est sur la table. La quatrième dose, on a commencé à la faire depuis plusieurs mois chez les patients immunodéprimés, les transplantés ou les patients ayant des thérapeutiques très immunosuppressives. Donc ça, c'est déjà en place. Par contre, la question ne se pose pas effectivement en population générale. Hein. On réfléchit pour les sujets fragiles et les personnes âgées à l'opportunité d'une quatrième dose. Est-ce qu'elle sera avant l'été? Est-ce qu'elle sera finalement à l'automne dans un système d'endémicité? Pour l'instant, on n'a pas ces réponses, mais on ne se précipite pas parce qu'en France, on est en retard sur la troisième dose. On a encore plus de 20 millions de gens qui n'ont pas fait cette troisième dose. Cette troisième dose, elle est très importante pour se protéger des formes graves. Donc nous, on est plutôt dans une séquence différentes où on doit augmenter la troisième dose et puis dynamiser la vaccination des enfants qui est très en retard chez nous, hein, qui démarre. On l'a fait démarrer juste pendant les fêtes, c'était compliqué. Mais là, maintenant, il faudrait accélérer la vaccination des enfants comme cela a été proposé par les autorités.
On a parlé des traitements, il y a d'autres outils à cette riposte. d'autres dont on ne parle pas forcément autant. Par exemple, les capteurs de CO2 mobiles dans les écoles. Cet équipement a été pas mal popularisé dans un pays comme l'Allemagne, dans certains pays d'Europe. Ça commence doucement en France. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Disons que c'est un outil. Hein. En fait, il faut aérer. Là, quand il fait froid, c'est plus compliqué d'aérer. Mais on sait que quand on aère les fenêtres, si on fait une circulation d'air, l'aérosol de virus ne persiste pas. Et donc, c'est efficace. Donc, c'est un outil qui vous permet de mesurer le nombre de particules virales dans un milieu clos. Donc, c'est une aide. Mais bon, ça a un coût. Il y a un investissement qui est en cours. Mais ce n'est pas la panacée. Hein. Il y a beaucoup de mesures de bon sens, notamment le double masquage. Si les professeurs portent un masque et si les élèves portent un masque, on est déjà dans une protection.
Oui, les deux personnes, on ne dit pas deux masques par personne.
Non. Oui,
non, voilà. Non, vous m'avez fait peur, là, parce que déjà, j'en ai marre.
Non, c'est pas double masque. C'est
tout le monde porte voilà, correctement
masqué,
le masque.
Voilà. Mais encore faut-il bien le porter. Donc, la pédagogie sur le masque doit être éternellement renouvelée. Hein.
Alors, on entendait justement cette perception de la vaccination qui est différente en fonction des pays, en fonction des populations, le ressenti qui est différent par rapport aux précédentes vagues aussi, quand on voit qu'on tombe moins malade, on se dit à quoi bon se vacciner. Est-ce que par rapport aux campagnes de vaccination aujourd'hui, il y a toujours cette réflexion, cette pédagogie pour dire comment aller vers les gens qui sont réticents, ou est-ce que finalement, dans une certaine mesure, on dit ce sont les derniers irréductibles, on n'y arrivera jamais avec eux?
Non, on n'est pas résigné. Tous les jours, en consultation, on essaie de convaincre. Je parle même de moi du terme de convertir les patients d'aller vers la vaccination. La difficulté, et les déterminants sociaux sont connus, c'est finalement la stratégie d'aller vers est complexe dans un pays hétérogène sur le plan sanitaire et socio-économique. Et il y a des poches de résistance qui sont connues. Hein. Dans le sud de la France, on est moins bien vacciné dans le nord. C'est vrai pour le calendrier vaccinal. Et dans les zones où les gens sont pauvres ou sont un peu éloignés de la vie classique de la société, c'est plus compliqué de les porter à la vaccination car ce n'est pas une priorité pour eux. Les gens qui ont comme priorité de se nourrir, de trouver du travail, etc., ne sont pas prioritaires sur les actions de santé. Donc finalement, cette pandémie ne fait que révéler des déterminants fragiles de la santé en France qui sont bien connus de l'État et des épidémiologistes.
Je modulerai un peu parce que je ne dirais pas des actions de santé qui ne les concernent pas dans leur chair, mais quand c'est la santé des enfants ou la santé des parents, là on est vraiment sur une priorité à la santé quand même.
Oui, tout à fait. Mais alors après, il y a aussi un problème d'acceptabilité,
de visibilité de la maladie aussi.
Voilà, c'est ça, de visibilité, de compréhension. Et là, il faut faire preuve de pédagogie. Mais on n'a pas. Il y a encore en France chaque jour là plus de 30 000 primo-vaccinations.
Ça veut dire que ça continue.
Ça continue de monter doucement.
Alors cette défiance, elle prend des formes très variées. On a même des fois pu être stupéfait de ce qui se passe sur le niveau de l'incrédulité. Y compris, j'ai vu ça sur Internet, quand des infirmières de réanimation témoignent lorsque des patients intubés sont filmés, professeur Rapp, il y a encore des personnes qui se disent tout ça, c'est des figurants. Alors, est-ce qu'on ne se pose pas vraiment des questions de fond quand on est médecin, quand on soigne, pour se dire comment est-ce qu'on va faire pour convaincre? Vous en parliez tout à l'heure d'une forme de conversion. On n'est plus dans la réalité, on est quasiment dans l'idéologie, dans la croyance. Mais comment on fait quand on a des personnes qui sont filmées à l'hôpital qui disent « je regrette, je n'étais pas vaccinée » et les gens disent « c'est pas vrai, ça continue » et on en voit, c'est énorme. Peut-être que c'est beaucoup plus visible que ça ne l'est en réalité, ça c'est possible, mais ça existe quand même. Et est-ce que c'est comme pour vous, quelqu'un qui a, j'imagine, des dizaines d'années de pratique et d'expérience derrière lui, quelque chose qu'on n'avait pas vu venir ?
Alors, on a toujours eu des anti-vax. Hein. Il faut bien distinguer l'hésitation vaccinale, qui est quelque chose de légitime pour les parents, pour les enfants, etc., des anti-vax. C'est un courant qui existe, qui représente 2-3% de la population. Il existe sur d'autres valences vaccinales, sur d'autres vaccins. Il est très médiatisé par les réseaux sociaux, malheureusement. Il est aussi drivé par l'ambiance électorale et l'irresponsabilité de nombreux politiciens en France. Moi, je suis quand même atterré du niveau d'irresponsabilité d'un certain nombre de candidats à des hautes fonctions qui ont quand même relayé des propos qui sont de l'ordre du complotisme. Et ça, les médecins, on est en difficulté face à ça parce que c'est une communication qu'on n'a pas appris à mettre en œuvre. Et c'est vrai que les irréductibles, on en a dans d'autres pathologies, ils sont extrêmement difficiles à convaincre. Et finalement, ceux-là, c'est plus notre cible. Là, nous, on est sur les hésitants vaccinaux. parce que là, il y a encore des choses à faire sur les gens qui sont perdus comme ça. Il y a des études sociologiques là-dessus. Il y a des déterminants politiques, socio-économiques. C'est une catégorie qui est bien repérée maintenant.
Alors, une autre illustration, autre cas de figure dans un pays dont les frontières n'ont pas encore ouvert, c'est le Maroc. Professeur Kamal Maroum El Filali, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous avoir en ligne. Vous êtes chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Ibn Rushd, j'espère que je l'ai bien prononcé, dans cette même ville de Casablanca.
C'est bon.
Ça va, c'est bon. Vous faites partie du comité Covid-19. Même question tout à l'heure qu'à vos confrères, professeur El Filali. Où est-ce qu'en est le Maroc sur le plan des contaminations par rapport à la vague de Covid actuelle sous variant Omicron?
Écoutez, là, nous sommes en pleine ascension de la courbe épidémiologique. Nous avons atteint des chiffres tels que 8500 environ. Ça a été le maximum. Là, depuis quelques jours, comme ça vient après le week-end, nous sommes par exemple hier à 3177 cas durant les précédentes 24 heures. Mais ça, c'est dû au fait que c'est le week-end. Nous vivons actuellement ce que nous appelons au Maroc notre troisième vague, parce qu'on a été épargné par la deuxième et la troisième, voilà, je dirais, parce qu'on avait pris certaines précautions, en particulier confinement total et également un couvre-feu durant le mois du Ramadan, ce qui a empêché les gens de circuler, donc on a évité une vague. Là, on est à la troisième, qui est en train de gonfler, si on veut. Je ne pense pas qu'on soit encore arrivé au pic, mais ce qui est quand même rassurant, c'est que, comme partout ailleurs, le nombre de cas graves est quand même limité. Ce n'est pas comme ce qu'on a observé avec Delta.
Alors justement, pas forcément une explosion des admissions en réanimation. J'ai lu qu'il y avait plus d'un million de contaminations au Maroc. Les frontières du pays restent fermées. Pourquoi, professeur?
Mais écoutez, ça a été une décision plus politique que scientifique. Il y a eu quand même, les scientifiques ont poussé pour qu'on ferme momentanément les frontières parce qu'on ne connaissait pas encore ce variant, donc Omicron. Il fallait se donner le temps de le connaître et de savoir quels étaient les risques potentiels avec ce variant. Mais malheureusement, jusque-là, les frontières restent fermées.
Ça va faire 2 mois. Hein.
Oui, pratiquement. Ce qui est annoncé, c'est que ça va aller jusqu'au 31 janvier.
Et c'est vrai que sur le plan social, ça a un effet. Hein. On sait que pour un pays comme le Maroc, le tourisme, c'est quelque chose de très important. Il y a eu la période des fêtes qui ne sont pas forcément célébrées au Maroc, mais beaucoup de touristes qui viennent d'habitude d'Europe. C'est vrai que ça a dû faire perdre beaucoup d'activités dans des secteurs plutôt fragiles.
Exactement. Bon, le tourisme a beaucoup souffert de cette fermeture de frontières. Tout le secteur touristique s'apprêtait à recevoir beaucoup de monde durant la période des fêtes. Malheureusement, ça a été la douche froide. Et là, malheureusement, ça a des conséquences au plan économique, dans le secteur touristique en particulier.
On a parlé beaucoup de vaccination. On va parler aussi de cela pour votre pays, le Maroc. Où en est le niveau de vaccination des populations? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
On peut dire que on a un résultat en termes de vaccination qui est quand même assez honorable. On est très bien parti au départ. Ça allait très bien avec l'objectif de vacciner 25 millions de personnes le plus rapidement possible. Malheureusement, ça s'est étalé dans le temps. Et malheureusement, actuellement, il y a de plus en plus de réticences de la part de la population.
Vous avez des chiffres sur la proportion de personnes vaccinées complètement?
Alors, en termes de chiffres, moi, je vous dirais que par rapport aux 25 millions qu'on envisageait, donc seuls 23 millions, un peu plus de 23 millions, sont totalement vaccinés. Quand je dis totalement, c'est les deux doses.
Sur une population adulte de combien?
D'environ la population totale. La population totale est environ 37 millions, un peu plus de 37 millions.
Oui, donc ça représente quand même une large proportion des adultes.
Tout à fait. Je pense que le taux de vaccination avoisine actuellement les 60%, 63% peut-être. Bon, disons globalement, les deux tiers sont vaccinés avec deux doses. Nous avons entrepris la vaccination par la troisième dose et nous sommes actuellement à 3 800 000 qui ont reçu la troisième dose, mais on est loin de l'objectif. On est peut-être à 20% de l'objectif concernant la troisième dose.
Une dernière question, professeur Elfilali, elle concerne ce qui est jusqu'à présent le plus utile pour se protéger des contaminations, encore et toujours les gestes barrières. Est-ce que vous avez le sentiment que la population a relâché sa vigilance à ce sujet ou que les gens restent bien concernés sur le lavage des mains, le port du masque, limiter les grands rassemblements? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors je dirais clairement oui, il y a eu un relâchement. C'est tout à fait visible. Il suffit de sortir, se balader un petit peu dans la rue, voir les centres commerciaux, et on est tout de suite devant un état de fait. On ne se protège pas. Il y a deux semaines, je dirais que c'était vraiment la catastrophe. On voyait à l'évidence que les gens pensaient qu'il n'y avait plus rien, qu'il n'y avait plus de Covid-19 au Maroc. Bon, maintenant, avec la communication du ministère de la Santé, avec le nombre de cas qui augmente, bon, une part de la population est de nouveau revenue vers ces mesures barrières. Mais bon, ça reste quand même assez insuffisant.
Il faut continuer le travail. Merci beaucoup, professeur Elfilali, d'avoir été en ligne du Maroc, de Casablanca, pour répondre aux questions de priorité santé. On l'a bien compris, professeur Rapp, et on le redit, ne pas baisser la garde, rappeler ces gestes essentiels, même si on a vraiment le sentiment que ça a été rabâché. On les a entendus 1000 fois, on va les entendre 1001 fois.
Oui, non, c'est vraiment essentiel. Hein, la notion de distanciation sociale là, est majeure. Hein. Les études montrent que si on diminue nos interactions sociales, hein, ne serait-ce que de 10-20%, on va écréter la circulation, la courbe épidémique et la circulation virale. Et d'ailleurs, là, la forte intensité de la vague Omicron a quand même engendré une amélioration des mesures barrières et une limitation des interactions, plus un peu de télétravail, et ça participe à contrôler la vague. Hein. Les gens oublient finalement que quelques mesures de bon sens individuelles vont avoir un bénéfice collectif très important sur la circulation du virus.
C'est vraiment. Et on comprend bien qu'il n'y a pas une mesure miracle, même si non, à un moment donné, on nous a fait un petit peu croire que le vaccin,
c'est l'image du gruyère avec une addition. Hein, moi, je parle de mesures additives et synergiques qui vont permettre de porter des fruits.
Il nous reste peu de temps. J'ai une question quand même sur le vaccin qui protège, mais qui protège vraiment des formes graves, mais aussi des contaminations. Est-ce que les recherches, les scientifiques sont toujours au travail là-dessus?
Plus que jamais, puisque l'OMS a très clairement, dans ses derniers conseils techniques de la vaccination, établi un nouveau cahier des charges pour les vaccins de deuxième génération. Les vaccins de première génération, notamment dans les pays riches, ont produit leur effet. On leur avait demandé de limiter les formes graves et les décès. Ceci est vrai avec les vaccins ARN messagers. Ça, donc le travail a été fait, mais maintenant, la deuxième génération, on espère avoir un vaccin plus efficace sur la limitation de la transmission, donc sur le portage du virus.
Pour éviter aussi les doses à répétition.
Alors bien entendu, hein, ça c'est évident qu'on voudrait partir sur des schémas beaucoup plus simples parce que beaucoup plus acceptables et faciles à délivrer.
Et accessibles pour le plus grand nombre. Merci beaucoup professeur Rapp d'avoir encore éclairé les auditrices et les auditeurs de Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes infectiologue à l'hôpital américain de Paris. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, à Cétou Samaké, Ophélie Lassène, Didier Bleu et Laurent Hérault. Demain, on va parler de l'impact des réseaux sociaux sur la jeune génération. Outils et phénomènes bénéfiques ou toxique, quelles conséquences pour la santé mentale des jeunes? À demain, d'ici là, portez-vous bien. Et on le dit, on le redit, et on n'a pas fini de le répéter, lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec Sunwa Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner durant cette année d'excellence. Bonne année.